Peut-être qu'il y a une autre déception qui va surgir de l'avenir de France Emploi, s'il vous plaît.
Peut-être parler de cette fusion, de comment elle se fait et comment ça se fait. Les grands changements du service public de l'emploi en France se sont généralement faits, ont toujours correspondu à des mutations structurelles de l'économie et bien sûr la conception du rôle de la main-d'œuvre. Alors ça a été par exemple le passage à une économie de guerre ou sa sortie, hein, puisque le premier service public de l'emploi s'est fait pendant la guerre de 14, ou encore des prévisions de changement qui combinent démographie et réorientation politique. Quand l'ANPE a été créée, ça s'inscrivait à la fois dans le constat de la fin de concordance entre deux types de données, la population active employée et la population active disponible, qui était obtenue par des méthodes statistiques indépendantes et qui formaient un tableau dit d'équilibre d'emploi. C'était dans un débat donc, sur le concept statistique de chômeur et dans l'option politique qui était celle d'ouverture des frontières et de ses conséquences prévisibles en termes de mobilité de l'emploi. Et l'ANPE elle-même résulte donc d'un rapport du Commissariat général du plan, le rapport Ortoli, dont le titre porte les intentions du programme qu'il déroule, puisque c'était « Rapport sur les conséquences sociales de l'évolution des structures de l'économie ». Et c'est un rapport qui s'appuyait sur trois points. Le fait que dans une économie en progrès, la mobilité de l'emploi est inévitable et nécessaire. Le fait qu'elle est compatible avec le plein emploi dès lors que l'expansion est suffisamment soutenue et diversifiée, et qu'elle exige une infrastructure de l'adaptation qui doit être rapidement mise en œuvre. Et en fait, il y avait une exigence qui était dans ce projet, qui était que tout soit fait pour que cette évolution inévitable soit bien une source de progrès pour la collectivité et de promotion pour l'individu, et non pas une occasion de misère et de révolte. La nouvelle institution devait permettre la facilitation de ces transitions et elle liait très fortement placement, orientation, libre choix et formation professionnelle dans ce qui s'appelait une organisation de conseil où tous les travailleurs étaient encouragés à s'adresser pour recevoir des conseils sur la manière de résoudre leurs problèmes liés de près ou de loin à des changements d'emploi. Il y avait eu ce rapport et puis ensuite un débat parlementaire politique qui en avait un peu modifié les données, mais c'était sur la base de ce rapport. Aujourd'hui, la fusion va se passer de façon tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on peut dire que le bouleversement du service public de l'emploi procède avant tout de la mise en place du mécano institutionnel. Il y a eu un texte de loi le 13 février, et puis ensuite des rapports. Et les rapports que l'on a vus arriver, les deux rapports de l'IGAS qui sont arrivés, étaient plus des rapports, enfin pour le premier, un rapport de bilan un petit peu des actifs des deux institutions à fusionner, hein, c'était le rapport Ménil Dubuisson, ou alors le dernier qui est un rapport d'habillage politique d'une décision déjà prise. Et dire comme le fait le président de la République que cette fusion aurait dû être faite depuis 20 ans, ça revient d'ailleurs bien à dire et à avouer qu'aucune réactualisation sérieuse de la réflexion a été faite aujourd'hui. Donc reste quand même que cet habillage politique dans le dernier rapport, le rapport Boulanger, peut être questionné. Alors, ce rapport s'appuie sur la stratégie de Lisbonne. Hein, donc, il anticipe le changement démographique et la stratégie de Lisbonne anticipait le changement démographique et préconisait l'augmentation du taux d'emploi de la personne en âge de travailler. Rien dans le rapport ne parle des éventuels, enfin des controverses qu'il y a sur la date, enfin à quel moment commence à décroître cette population active. Pas plus d'ailleurs que ne l'est par rapport à l'augmentation du taux d'emploi, n'est questionné le comportement éventuellement discriminant des entreprises. ça n'est pas possible. Ce rapport dit qu'il faut encourager toute personne à travailler et non à se retirer du marché du travail et qu'il faut lui permettre d'exploiter toutes ses capacités. Exploiter toutes ses capacités, ce n'est pas dire, comme précédemment, qu'il faut permettre à la personne de développer toutes ses potentialités. On est sur deux choses différentes. Le rapport Ortoli proposait d'accroître la faculté d'adaptation des travailleurs aux mutations de l'appareil productif par la qualification, tandis que le rapport Boulanger aujourd'hui, qui encourage aussi à la mobilité, considère que la formation, je cite, « ne constitue pas une réponse de première attention au problème du chômage, même si elle aide sur le long terme à réduire la récurrence ». Donc la stratégie est bien celle du court terme. On est vraiment uniquement sur le court terme. Le chômeur est incité à retrouver au plus vite un emploi, indépendamment de la qualité de ce dernier. C'est ce qu'on a vu. Et les indicateurs à satisfaire ne concernent que la réduction de la durée du chômage. C'est l'emploi rapidement retrouvé qui est préféré à l'emploi pérenne. Lutter contre la récurrence du chômage n'est pas l'objectif essentiel de l'organisme fusionné tel qu'il est amené dans ce rapport. C'est tout juste un objectif très secondaire. C'est l'axe 3 du rapport, il y a 4 axes. Et on y arrivera quand le chômage aura diminué, quand on aura le temps, autrement dit, jamais. Ce qui est bien sûr un objectif également contradictoire avec l'objectif annoncé d'augmentation du taux d'emploi, puisque finalement, on sait quand même qu'un grand nombre de personnes qui passent par l'emploi précaire, finalement, la sortie sera davantage l'inactivité que l'emploi pérenne. Le rapport Boulanger s'inscrit aussi dans une perspective d'affaiblissement des protections collectives et de montée des responsabilités individuelles. Donc il évoque la mise en place de sécurité personnelle contre le chômage, qui passe par les compétences et non plus les qualifications, et il inscrit le demandeur d'emploi et l'agent lui-même du service public de l'emploi dans une relation individualisée avec des responsabilités qui sont personnalisées pour l'un et l'autre. Donc ce n'est plus... Le chômage cesse d'être une responsabilité portée par l'ensemble de la collectivité nationale qui doit, en contrepartie, aider le chômeur à subvenir à ses besoins et à retrouver un emploi. On est uniquement dans un jeu de responsabilité individuelle de personnes face à face qui ont la responsabilité de combattre le chômage. Il exacerbe aussi un rapport de plus en plus déséquilibré dans les dernières années, et ça va l'être davantage encore, de l'organisme fusionné, enfin c'était la NPE, ça sera l'organisme fusionné, avec les deux types d'usagers que sont les demandeurs d'emploi et les entreprises. Parce que, toujours ce rapport, l'accès aux services gratuits de l'opérateur public demande en contrepartie un engagement entier du demandeur d'emploi sous peine de radiation et perte du droit à l'indemnisation. Jointe à l'offre dite raisonnable d'emploi, on voit le niveau de contrainte qui pèsera sur les personnes, sur les demandeurs d'emploi. Par contre, pour accéder aux mêmes services, gratuits également, pour les entreprises, l'organisme fusionné doit conforter sa légitimité à agir dans le champ du service aux entreprises. Il doit devenir l'opérateur préféré des entreprises sur le marché de l'emploi. Ça veut dire, prendre toute offre proposée, sans à aucun moment se soucier de la qualité de ces offres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à chercher à négocier avec les entreprises quelque chose de correct. L'offre raisonnable d'emploi, c'est surtout mettre à raison le demandeur d'emploi et non pas travailler du côté de l'entreprise pour que l'offre soit également raisonnable. Enfin, il y a aussi quelque chose de très, très frappant, c'est que alors que la loi du 13 février 2008, qui crée l'organisme fusionné, enfin, qui le prévoit, a inscrit dans ses missions le fait de participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle. Il n'y en a pas un mot dans le rapport Boulanger. Pas un mot, tout juste quelque chose qui dit qu'il faut que les offres d'emploi diffusées, ce qu'on appelle en libre accès, c'est-à-dire simplement affichées ou sur Internet sans qu'il y ait d'intervention, eh bien simplement, il faut qu'elles soient en conformité aux règles du droit. Autrement dit, propres sur elles, les offres d'emploi, et on n'ira pas voir ce qui se passera. Hein. Donc la contrainte pour l'entreprise est assez mince de ce côté-là. Enfin, dernière contradiction de ce rapport, c'est que, bien que reconnaissant qu'il n'existe pas de preuve que le secteur privé soit plus efficace que le secteur public, cite le rapport, le recours aux opérateurs privés est encouragé et multiplié. Alors, deux types d'explications données par le rapport et qui semblent assez faibles. La première, c'est ça donne une augmentation de la capacité en termes quantitatifs. Hein. On pourrait dire qu'à cela, ben, il aurait suffi finalement et de titulariser les conseillers qui travaillent déjà en contrat à durée déterminée et d'embaucher davantage de monde. Et le deuxième argument, c'est de garder une capacité d'innovation. Là aussi, l'argument semble faible, puisque un service études et prospectives en lien direct avec un réseau peut aussi avoir des capacités d'expérimentation. Mais en fait, quand on comprend que les co-traitants, ce qu'on appelle les co-traitants, c'est-à-dire ceux avec qui nous travaillons, théoriquement en partenariat, sans jusque-là avoir... de poids sur eux. Donc ces co-traitants, c'est les missions locales qui s'occupent des jeunes, c'est les CAP emploi qui s'occupent des personnes handicapées principalement. Donc ces co-traitants devront viser au même objectif de reprise d'emploi à court terme que l'organisme fusionné, c'est-à-dire n'importe quel emploi le plus rapidement possible, et qu'ils seront évalués désormais par l'organisme fusionné. Et quand on apprend que les opérateurs privés de placement seront rémunérés en fonction des objectifs atteints, l'ANPE a déjà mis en place des sous-traitances en cascade, on comprend que l'objectif principal, là, est d'obtenir un service de l'emploi au sens large, avec un certain nombre d'agents qui sont hors des protections qui sont assurées par la convention numéro 88 de l'OIT pour les agents du service public de l'emploi, c'est-à-dire avoir une garantie d'emploi et ne pas être soumis à des influences extérieures et ni aux changements brutaux de gouvernement. Hein. C'est ce que c'est la convention 88. Donc, on comprend que ça permet d'avoir un réseau assez large d'agents qui seront assez dociles à ces injonctions et que la pression sur les demandeurs d'emploi, particulièrement les plus vulnérables, hein, mission locale Cap Emploi, sera extrêmement forte pour qu'ils prennent la première offre d'emploi venue. Voilà, donc ce rapport, qui n'était pas un rapport préalable à la réflexion, éclaire aujourd'hui quelles sont les intentions derrière la fusion. Donc on est très très loin du confort que devaient trouver les demandeurs d'emploi dans l'organisme fusionné où tout aurait été fait pour les accueillir convenablement.
Moi je pense que tout ce que vous venez de dire là, pour moi c'est une très grande violence. C'est d'une très grande violence envers les personnes concernées. On n'est plus du tout dans l'éthique.
Hein?
Parce que moi, par exemple, on dit par exemple que les organismes partenaires vont devoir s'adapter aussi. Alors moi, je prends l'exemple d'une personne qui aurait des petites difficultés psychologiques. Le métier d'éducateur technique spécialisé, il a son avenir derrière lui, par exemple. Il va faire travailler dans un centre d'aide par le travail, dans un CAT, ou dans un atelier protégé, des personnes qui ont une faiblesse. Vous voyez ? Dans le champ du social, il y a des métiers comme technicienne en intervention d'urgence sociale et familiale, par exemple. Elle se consacre à des personnes qui peuvent encore travailler, mais qui ont besoin en permanence d'avoir un papa et une maman pour travailler. Alors que ces personnages, on en tient compte ? D'autre part, moi, si je prends mon cas personnel, imaginons que je sois encore demandeur d'emploi. On m'imposerait d'aller travailler à l'imprimeur de l'UMP ? Mais cela, c'est mon éthique personnelle. Non, mais c'est vrai. À l'époque, je travaillais en intérim.
C'est raisonnable, mais à l'époque où j'étais...
Une fois, ça m'est arrivé d'être dans une imprimerie où j'étais... Parce que moi, mon ancien métier, c'est imprimeur. J'étais en mission de travail temporaire. Bon, la mission ne durait qu'un mois. Mais j'ai imprimé un tract pour le Front National. Eh oui. Et d'autre part, puisque je pars par exemple dans mon métier, une rotative offset, dans les années 60, vous savez, c'est une machine énorme, que ce soit pour un premier François, Le Monde, etc. Bon, la machine ne tiendrait pas ici. Hein. Dans les années 60, ça faisait vivre une dizaine de personnes. À la date d'aujourd'hui, ça en fait vivre 5 ou 6. Bon, j'imagine l'imprimeur qui réalise le progrès technologique de son métier. Il va pouvoir trouver une formation professionnelle complémentaire pour améliorer ses compétences professionnelles. Non, on va lui dire, monsieur, il faut aller bosser tout de suite.
Oui, c'est ce qu'il va s'entendre dire dans un premier temps.
Ah oui, voilà.
C'est vrai. Oui, la formation va en prendre un coup majeur.
On ne tient pas compte non plus de l'éthique de la personne et du profil, justement, de la personne un peu faible, un peu... Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, là, c'est une violence totale.
C'est affaire de convention...
Cette convention, elle permet effectivement quand même, bon, elle date de l'après-guerre, c'est une des conventions qui permettait de ne pas retomber dans des systèmes de travail obligatoire. Et donc c'est un système protecteur dans un premier temps pour les employés, mais qui ensuite sont bien sûr protecteurs pour le public qui le reçoivent. Alors, elle est réintroduite dans le texte de loi du 13 février, mais elle ne concernera que la partie des agents publics et non pas tout le réseau de sous-traitants.
Et ça, c'est attaquable ou pas ? À partir du moment où vous travaillez pour le compte du service public de l'emploi, est-ce que vous êtes
pour le compte
vous êtes faisant office de, est-ce que vous ne devriez pas...
Ça serait peut-être quelque chose, effectivement, qui serait posé. Est-ce que quand on a une mission, indirectement, en sous-traitance, est-ce que une délégation de mission...
Oui, j'avais deux questions en matière de formation. On sait que depuis 2001, je crois, le plan d'aide au retour à l'emploi, les chômeurs ne peuvent plus accéder à des formations longues et qualifiantes. Ils sont obligés d'accepter des formations courtes professionnalisantes en rapport avec les besoins du marché du travail local. Là, vous n'avez pas noté d'orientation ou quoi que ce soit dans les rapports ou dans la législation récente. Et la deuxième question, j'ai lu quelque part qu'avec la fusion, les effectifs de l'UNEDIC passeraient de plusieurs milliers à quelques centaines. Est-ce que c'est compatible avec un service de l'emploi correct ?
Oui. Alors, pour ce qui est de la formation, effectivement, on est passé d'une formation, deux formations qui étaient quand même orientées sur des formations qualifiantes à des formations beaucoup plus d'adaptation, extrêmement réduite. Là, le rapport semble indiquer que ça va se poursuivre et même se renforcer, tout à fait. Sur la deuxième question, sur la réduction des effectifs de l'UNEDIC, qui effectivement devrait représenter un périmètre qui serait autour de 200 à 400 personnes. Ça provient du transfert du transfert à l'URSSAF d'une partie de leur activité. Mais ce transfert ne va pas se faire tout de suite d'abord, et puis ensuite ça pose quand même la question de comment des salariés, ceux-là, vont pouvoir vivre pendant cette durée-là, c'est-à-dire les 2 ans qui restent à venir, l'idée que leur travail disparaît, que c'est une question qui pose la question de ces salariés-là aussi. Sans compter la qualité, enfin, que se passera-t-il ? Ça, on n'en sait rien. Quelles seront les conséquences du transfert à l'URSSAF de la collecte des cotisations et du contrôle de ces cotisations ? Monsieur, vous savez.
Est-ce que la fusion, est-ce que c'est pas le détruit qu'on ne va pas vers une privatisation? Ça, c'est ma première question. Parce que ça me semble qu'on y va direct. Que c'est comme à l'AFP, on avait signé le tiré des tirs d'alarme, là, ils vont mourir, l'AFP. Hein, ça, c'est pareil.
Oui, il y a une obligation à un maintien d'un service public de l'emploi, mais on peut voir qu'il se rétrécit totalement, hein, qu'il devient vraiment peau de chagrin, et qu'effectivement, il va être plus à la fois en contrôle, hein, en surveillance de la recherche d'emploi, en contrôle des chômeurs, en instrument de pression, et puis en dispatch. Sur des organismes privés
qui vont coûter plus cher, dans le fond.
Oui, sans doute.
Ils vont faire de l'argent sur les chômeurs, comme d'habitude.
Vous avez une autre question? Parce que sinon, il y a madame.
Dans le rapport Boulanger, il parle d'un instrument de profilage des chômeurs.
Oui, qui a déjà été mis en place de façon expérimentale avec à l'aide donc un logiciel, hein, qui profile la personne, c'est-à-dire qui détermine normalement, enfin qui détermine le degré d'éloignement à l'emploi en fonction d'un certain nombre de critères statistiques. Et qui est inquiétant puisque d'abord finalement là aussi au lieu d'être dans une lutte contre la discrimination, on est dans la reconnaissance et l'acceptation de ces discriminations. Vous êtes étranger, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes une femme, pour tel type d'emploi, dans ce bassin-là, vous aurez plus de mal à trouver un emploi. Donc c'est une acceptation, finalement, de ces difficultés, sans mise en place de critères derrière. Bon, sans compter que là, le profilage, qui se fait uniquement comme ça, qui est une projection dans l'avenir d'éléments objectifs et objectivés, je ne sais pas, ne rend pas compte de tout un tas d'éléments qui vont être la dynamique personnelle, l'appui que la personne peut avoir ou ne pas avoir par rapport à son entourage, le fait que, je ne sais pas, qu'elle soit en bonne santé ou des choses comme ça. Donc il ne s'appuie que sur un nombre d'éléments restreints Et à partir de là, on construit une trajectoire, un parcours pour cette personne. Alors que dans le travail d'intermédiation en règle générale, d'abord il y a beaucoup plus de critères qui se passent parce qu'ils sont, pris, enfin je veux dire, dans une discussion entre deux personnes, il y a des éléments qui sont pris de façon extrêmement rapide. On pourrait dire que c'est intuitif, en fait, ça ne l'est pas. C'est généralement le résultat de l'expérience qui fait qu'on intègre un grand nombre de données, beaucoup plus large. Et puis d'autre part, c'est quelque chose, un accompagnement, c'est quelque chose qui se construit avec la personne. Et donc on peut s'apercevoir que, ben, à tel moment, cette personne semblait pouvoir trouver très rapidement un emploi. À un autre moment, on se dit finalement, elle a peut-être besoin, et on convient ensemble qu'elle a besoin d'être aidée ou d'avoir une formation. Donc il y a des réajustements qui se font de façon constante. La relation entre deux personnes n'a rien à voir avec la prédiction d'un système automatisé sur quelques données statistiques. Sans compter, je vous dis, cet élément quand même qui déontologiquement est plus que gênant, de l'acceptation des critères de discrimination comme élément intégré au parcours des personnes.
Avez-vous d'autres questions ? Que ce soit sur l'intervention de Mme Isochema ou les autres interventions. Bon, donc on va clore l'intervention commune maintenant. Je pense que vous aurez compris, au vu de tout ce qui a été dit aujourd'hui, qu'on continuera, et qu'au vu de l'enjeu sur la qualité de l'emploi et de la faiblesse des indicateurs qui peuvent les qualifier, je pense qu'on continuera notre travail. On se reverra sans doute à l'automne. En tout cas, nous nous ferons connaître à ce moment-là. Donc, si vous avez d'autres questions à poser de manière individuelle aux intervenants, on reste à votre disposition ce soir.